Paris, livre 4, chapitre 3. Deux jours plus tard, Pierre s'accoutumait à son nouveau costume, n'y pensait plus, lorsque, venu le matin à Montmartre, il rencontra l'abbé Rose devant la basilique du Sacré-Cœur. Le vieux prêtre, saisi d'abord, ayant peine à le reconnaître ainsi vêtu, lui prit les deux mains, le regarda longuement, puis, les yeux inondés de larmes, « Oh, mon fils, vous voilà tombé à l'affreuse misère que je redoutais pour vous. Je ne vous en parlais pas, mais j'avais bien senti que Dieu s'était retiré de votre âme. Ah, rien ne pouvait m'atteindre au cœur d'une plus cruelle blessure. » Tremblant, il l'emmenait à l'écart, comme pour le soustraire au scandale des quelques rares passants. Et ses forces défaillirent, il se laissa tomber sur un tas de briques, oublié là dans l'herbe au fond d'un chantier. Cette grande douleur réelle de son vieil ami, si tendre, avait bouleversé Pierre, plus que ne l'aurait fait de furieux reproches et des anathèmes. Des larmes étaient aussi montées à ses yeux. Dans la souffrance brusque, imprévue, d'une telle rencontre, à laquelle il aurait pourtant dû s'attendre. C'était un arrachement encore, et où coulait le meilleur de leur sang que sa rupture avec le saint homme, dont il avait si longtemps partagé le rêve charitable, l'espoir du salut du monde par la bonté. Entre eux, il y avait eu tant de divines illusions, tant de luttes pour le mieux, tant de renoncements et tant de pardons mis en commun dans le désir de hâter l'heureuse moisson future. Et voilà qu'ils se séparaient, que lui, jeune, retournait à la vie, abandonnant le vieil homme seul en son chemin de songe et de vaine attente. Il lui avait pris les mains à son tour, il se lamentait. « Ah, mon ami, mon père, vous êtes bien le seul regret que je laisse dans l'affreux tourment d'où je sors. Je croyais en être guéri, et mon pauvre cœur vient de se fendre rien qu'à vous rencontrer. Je vous en prie, ne pleurez pas sur moi, ne me reprochez pas ce que j'ai fait. C'était nécessaire, vous-même m'auriez dit, si je vous avais consulté, qu'il vaut mieux ne plus être prêtre que d'être un prêtre sans foi et sans honneur. » « Oui, oui, » répéta doucement l'abbé Rose. « Vous n'aviez plus la foi, je m'en doutais. Et votre rigidité et votre grande sainteté, où je devinais tant de désespoir, m'inquiétaient beaucoup. Que d'heures j'ai passées à vous calmer autrefois. Il faut que vous m'écoutiez encore. Il faut que je vous sauve. Je ne suis pas, hélas, un théologien assez savant pour discuter, pour vous ramener au nom des textes et des dogmes. Mais, au nom de la charité, mon enfant, au nom de la charité seule, réfléchissez, reprenez votre tâche de consolation et d'espérance. » Pierre, qui s'était assis près de lui, dans ce coin désert, au pied même de la basilique, se passionna. « la charité, c'est la certitude de son néant et de son inévitable banqueroute qui a fini de tuer le prêtre en moi. Comment pouvez-vous croire que donner suffit lorsque votre vie entière s'est épuisée à donner, sans que vous ayez récolté autre chose pour les autres et pour vous que l'injuste misère perpétuée, aggravée même, sans jamais pouvoir fixer le jour où l'abomination cessera ? La récompense après la mort, n'est-ce pas? La justice au paradis? Ah, ce n'est pas de la justice, cela. C'est une duperie dont le monde souffre depuis des siècles. » Et il lui rappela leur vie là-bas, dans le quartier de Charonne, lorsqu'ils ramassaient ensemble les petits tombés à la rue, lorsqu'ils secouraient les parents au fond des bouges. Tout cet effort admirable qui avait abouti pour lui au blâme de ses supérieurs, à une sorte d'exil loin de ses pauvres, sous la menace de peines plus sévères s'il recommençait à compromettre la religion par des aumônes aveugles, sans raison ni but. Maintenant, surveillé, soupçonné, N'était-il pas comme submergé par la misère toujours montante, sachant qu'il ne donnerait jamais assez, même s'il disposait de millions, ne faisant que prolonger l'agonie du pauvre, qui, s'il mangeait aujourd'hui, ne mangerait plus demain. Il était impuissant. La plaie qu'il croyait panser se rouvrait au même instant de toutes parts. Le corps social entier allait être envahi et emporté par cet ulcère. Et le vieux prêtre, frissonnant, qui l'écoutait en hochant sa tête blanche, finit par murmurer « Qu'importe, qu'importe, mon enfant, il faut donner, donner toujours, donner quand même, il n'y a pas d'autre joie. Si les dogmes vous gênent, restez-en à l'Évangile, n'en gardez que le salut par la charité. » Alors Pierre se révolta, oubliant qu'il parlait à ce simple d'esprit qui n'était que tendresse, incapable de le suivre. « L'expérience est faite. Le salut humain n'est pas possible par la charité. Il ne saurait être désormais que par la justice. C'est le cri peu à peu souverain qui monte de tous les peuples. Voici près de 2000 ans que l'Évangile avorte. Jésus n'a rien racheté. La souffrance de l'humanité est restée aussi grande, aussi injuste. » Et l'Évangile n'est plus qu'un code aboli dont les sociétés ne sauraient rien tirer que de troubles et de nuisibles. Il faut s'en affranchir. C'était là sa conviction définitive. Quelle étrange erreur de choisir comme législateur social Jésus, qui vivait au milieu d'une société autre, sur une terre autre, dans un temps autre. Et si l'on entendait ne garder de sa morale, de son enseignement, que ce qu'il pouvait avoir d'humain et d'éternel, quel danger encore dans l'application de préceptes immuables aux sociétés de tous les temps! Pas une société ne vivrait sous l'application stricte de l'Évangile. Jésus est destructeur de tout ordre, de tout travail, de toute vie. Il a nié la femme et la terre, l'éternelle nature, l'éternelle fécondité des choses et des êtres. Puis le catholicisme est venu bâtir sur lui son effroyable édifice de terreur et d'oppression. Le péché originel, c'est l'hérédité terrible, renaissante chez chaque créature qui n'admet pas, comme la science, les correctifs de l'éducation, des circonstances et du milieu. Il n'y a pas de conception plus pessimiste de l'homme, aussi voué au diable dès sa naissance, en proie à une lutte contre lui-même jusqu'à la mort. Lutte impossible, absurde, car c'est tout l'homme qu'il s'agit de changer. Tuer la chair, tuer la raison, détruire dans chaque passion une énergie coupable, poursuivre le diable jusqu'au fond des eaux, des monts et des forêts pour l'y anéantir avec la sève du monde. Dès lors, la terre n'est plus qu'un péché, un enfer de tentations et de souffrances que l'on traverse pour mériter le ciel. Admirable instrument de police, de despotisme absolu, religion de la mort que l'idée de charité a pu seule faire tolérer, mais que le besoin de justice emportera forcément. Le pauvre, le misérable dupé, qui ne croit plus au paradis, veut que les mérites de chacun soient récompensés sur cette terre. Et l'éternelle vie redevient la bonne déesse. Le désir et le travail sont la loi même du monde. La femme féconde rentre en honneur. L'imbécile cauchemar de l'enfer fait place à la glorieuse nature toujours en enfantement. C'est le vieux rêve sémite de l'Évangile que balaie la claire raison latine, appuyé sur la science moderne. Voici 18 ans, conclut Pierre, que le christianisme entrave la marche de l'humanité vers la vérité et la justice. Elle ne reprendra son évolution que le jour où elle l'abolira, en mettant l'Évangile au rang des livres des sages, sans voir en lui le code absolu et définitif. L'abbé Rose avait levé ses mains tremblantes. « Taisez-vous, mon enfant, vous blasphémez. Je vous savais bouleversé par le doute. Mais je vous croyais si patient, si capable de souffrance, que je comptais sur votre esprit de renoncement et de résignation. Que s'est-il donc passé pour que vous sortiez ainsi de l'église, violemment? Je ne vous reconnais plus. Une passion s'élevait en vous. Une force invincible vous emporte. Qu'est-ce donc? Qui donc vous a changé? Étonné, Pierre l'écoutait. Mais non, je vous assure, je suis telle que vous m'avez connue. Et il n'y a là qu'un résultat, un dénouement inévitable. Qui donc aurait agi sur moi, puisque personne n'est entré dans ma vie? Quel sentiment nouveau me transformerait, puisque je n'en trouve en moi aucun lorsque je m'interroge? Je suis le même assurément. Pourtant, il y eut dans sa voix une hésitation. Était-ce bien vrai que rien en lui ne fût survenu? Il s'interrogeait encore et rien ne répondait nettement. Il ne trouvait décidément rien. Ce n'était qu'un réveil délicieux, un immense désir de vie, un besoin d'ouvrir les bras assez larges pour embrasser toutes les créatures et toutes les choses. Et un vent d'allégresse le soulevait, l'emportait. L'abbé Rose, bien qu'il fût de cœur trop innocent pour comprendre, hochait de nouveau la tête, songeait au piège du démon. Cette défection de son enfant, comme il nommait Pierre, l'accablait. Il parla encore, eut la maladroite inspiration de lui conseiller d'aller voir Monseigneur Martha pour se confesser à lui, dans l'espoir qu'un prêtre de cette autorité trouverait les paroles nécessaires qui le ramèneraient à la foi. Mais Pierre osa dire que s'il sortait de l'église, c'était après y avoir rencontré un pareil artisan de mensonges et de despotisme, faisant de la religion une diplomatie corruptrice, rêvant de ramener les hommes à Dieu par la ruse. Et l'abbé Rose, alors, désespéré, debout, ne trouva plus qu'un argument, montra d'un geste la basilique qui se dressait près d'eux, dans sa masse géante, inachevée, carrée et trapue, en attendant le dôme qui la couronnerait. « C'est la maison de Dieu, mon enfant !» Le monument d'expiation et de triomphe, de pénitence et de pardon. Vous y avez dit la messe, vous la quittez en parjure et en sacrilège. » Pierre, lui aussi, s'était levé, et ce fut dans une exaltation de santé et de force qu'il répondit « Non, non, j'en sors par ma libre volonté, comme on sort d'un caveau pour retourner au grand air, au grand soleil. » Dieu n'est pas là, il n'y a là qu'un défi à la raison, à la vérité, à la justice. Un colossal édifice qu'on a dressé le plus haut possible, comme une citadelle de l'absurde dominant Paris, qu'il insulte et qu'il menace. Puis, voyant les yeux du vieux prêtre se remplir de nouvelles larmes, éperdu lui-même de leur rupture au point de sangloter, il voulut fuir. « Adieu, adieu !» Mais l'abbé Rose l'avait déjà pris dans ses bras, le baisait comme la brebis révoltée qui reste la plus chère. « pas adieu, mon enfant. Dites-moi au revoir. Dites-moi que nous nous retrouverons encore, au moins parmi ceux qui pleurent et qui ont faim. Vous avez beau croire que la charité a fait banqueroute, est-ce que nous ne nous aimerions pas toujours dans nos pauvres ?» Pierre, devenu le camarade de ses trois grands gaillards de neveux, avait, en quelques leçons, appris d'eux à monter à bicyclette pour les accompagner dans leur promenade matinale. Et deux fois déjà, il les avait suivis, ainsi que Marie, du côté du lac d'Enghien, par des routes durement pavées. Un matin, que la jeune fille s'était promis de le mener jusqu'à la forêt de Saint-Germain, avec Antoine, celui-ci, au dernier moment, ne put partir. Elle était habillée, culotte de serge noire, petite veste de même étoffe, sur une chemisette de soie écrue, et la matinée d'avril était si claire, si douce, qu'elle s'écria gaiement Ah, tant pis, je vous emmène. Nous ne serons que tous les deux. Je veux absolument que vous connaissiez la joie de rouler sur une belle route, parmi de beaux arbres. Mais comme ils n'étaient pas encore très aguerris, ils décidèrent qu'ils iraient avec leur machine prendre le chemin de fer jusqu'à Maison Laffitte. Puis, après avoir gagné la forêt à bicyclette, ils la traverseraient, remonteraient vers Saint-Germain, d'où ils reviendraient également par le chemin de fer. Vous serez ici pour le déjeuner? demanda Guillaume, que cette escapade amusait et qui regardait en souriant son frère, tout en noir, aussi bas de laine noire, culotte et veston de cheviotte noire. Oh, certainement, répondit Marie. Il est à peine 8 heures, nous avons bien le temps. D'ailleurs, mettez-vous à table, nous rentrerons toujours. Ce fut une matinée délicieuse. Au départ, Pierre s'imaginait qu'il était avec un bon camarade, ce qui rendait toute naturelle cette sortie, cet envolé à deux, par le tiède soleil printanier. Les costumes presque identiques, dans la liberté d'allure qu'ils permettaient, aidaient sans doute à cette fraternité joyeuse, d'une tranquille bonhomie. Mais c'était encore autre chose. La santé du grand air, l'allégresse de l'exercice pris en commun, tout ce plaisir de se sentir libres et bien portants, en pleine nature. Dans le wagon où il se trouvait seul, Marie revint à ses souvenirs du lycée. Oh, mon ami, vous n'avez pas idée, à Fénelon, des belles parties de barre. Nous attachions comme ça nos jupes avec des ficelles pour mieux courir, car on n'osait pas encore nous laisser mettre des culottes, telles que je suis là. Et c'était des cris, des galops, des poussées, et nos cheveux s'envolaient, et nous étions rouges. Bah, ça ne m'empêchait pas de travailler. Au contraire, une fois à l'étude, nous luttions, ainsi qu'en récréation. Nous nous battions à qui en saurait davantage et serait la première de la classe. Elle en riait encore de bon cœur, tandis que Pierre la regardait émerveillée, tant elle lui semblait rose et saine sous le petit chapeau de feutre noir qu'une longue épingle d'argent fixait dans l'épais chignon. Ses admirables cheveux bruns, relevés très haut, découvraient sa nuque fraîche, qui restait d'une délicatesse d'enfance. Et jamais il ne l'avait sentie si souple dans sa force, les hanches solides, la poitrine large, mais d'une finesse, d'une grâce charmante. Quand elle riait ainsi, ses yeux brûlaient de joie. Le bas de son visage, sa bouche et son menton, qu'elle avait un peu fort, s'éclairaient d'une infinie bonté. « Ah, la culotte, la culotte !» continuait-elle en plaisantant. « Dire qu'il y a des femmes qui s'entêtent à garder leurs jupes pour monter à bicyclette. » Et comme il déclarait qu'elle était très bien dans son costume, sans intention galante d'ailleurs, uniquement désireux de constater le fait, « Oh, moi, je ne compte pas, je ne suis pas belle, je me porte bien, voilà tout. » « Mais comprenez-vous ça ? Des femmes qui ont une occasion unique de se mettre à leur aise, de voler comme l'oiseau, les jambes enfin dégagées de leur prison, et qui refusent. Si elles croient être plus belles, avec des jupes écourtées et d'écolières, elles se trompent. Et quant à la pudeur, il me semble qu'on doit montrer plus aisément ses mollets que ses épaules. » Elle eut un geste de passion gamine. « Et puis, est-ce qu'on pense à tout ça lorsqu'on roule ? Il n'y a que la culotte, la jupe est hérétique. » À son tour, elle le regardait, et elle dut, à cette minute, être frappée par l'extraordinaire changement qui s'était produit en lui, depuis le jour où, pour la première fois, elle l'avait vu, si sombre, dans sa longue soutane, la face amaigrie, livide, ravagée d'angoisse. Derrière, on sentait la détresse du néant, un vide de sépulcre dont le vent a balayé la cendre. Et c'était, maintenant, comme une résurrection. Le visage s'éclairait, le grand front avait repris une sérénité d'espoir, tandis que les yeux et la bouche retrouvaient un peu de leur tendresse confiante dans son éternelle fin d'aimer, de se donner et de vivre. Plus rien déjà ne révélait le prêtre en lui, que les cheveux moins longs à la place de la tonsure dont la pâleur se noyait. « Pourquoi me regardez-vous » demanda-t-il. Elle répondit avec franchise. « Je regarde combien le travail et le grand air vous font du bien à vous aussi. Ah, je vous aime mieux tel que vous voilà. Vous aviez si mauvaise mine, je vous ai cru malade. »
« Je l'étais, »
dit-il simplement. Mais le train s'arrêtait à Maisons-Laffitte. Ils descendirent et tout de suite ils prirent la route de la forêt. Cette route monte légèrement jusqu'à la porte de maison encombrée de charrettes les jours de marché.
« Je prends la tête, n'est-ce pas ?»
cria gaiement Marie.
« Puisque les voitures vous inquiètent encore. »
Elle filait devant lui, mince et droite sur la selle, et elle se retournait parfois avec un bon sourire pour voir s'il la suivait. À chaque voiture dépassée, elle le rassurait en disant les mérites de leur machine, qui toutes deux sortaient de l'usine Grand Didier. C'était des Lisettes, le modèle populaire auquel Thomas lui-même avait travaillé, perfectionnant la construction, et que les magasins du bon marché vendaient couramment 150 francs. Peut-être avaient-elles l'aspect un peu lourd, mais elles étaient d'une solidité et d'une résistance parfaites.
« De vraies machines pour faire de la route, » disait-elle.
« Ah, voici la forêt, c'est fini de monter, et vous allez voir les belles avenues, on y roule comme sur du velours. » Pierre était venu se mettre près d'elle. Tous deux filaient côte à côte, du même vol régulier, par la voie large et droite, entre le double rideau majestueux des grands arbres. Et ils causaient très amicalement.
« Me voici d'aplomb maintenant. Vous verrez que votre élève finira par vous faire honneur.
Je n'en doute pas. Vous vous tenez très bien. Vous allez me lâcher dans quelque temps, car une femme ne vaut jamais un homme à ce jeu-là. Mais quelle bonne éducation tout de même que la bicyclette pour une femme.
« Comment cela ?»«
Oh, j'ai là-dessus mes idées. Si un jour j'ai une fille, je la mettrai dès 10 ans sur une bicyclette pour lui apprendre à se conduire dans la vie. »«
Une éducation par l'expérience. »«
Eh, sans doute. Voyez ces grandes filles que les mères élèvent dans leurs jupons. On leur fait peur de tout, on leur défend toute initiative. On n'exerce ni leur jugement ni leur volonté. » De sorte qu'elles ne savent pas même traverser une rue, paralysées par l'idée des obstacles. Mettez-en une toute jeune sur une bicyclette et lâchez-la-moi sur les routes. Il faudra bien qu'elle ouvre les yeux pour voir et éviter le caillou, pour tourner à propos, et dans le bon sens, quand un coude se présentera. Une voiture arrive au galop, un danger quelconque se déclare, et tout de suite il faut qu'elle se décide. Qu'elle donne son coup de guidon d'une main ferme et sage, si elle ne veut pas y laisser un membre. En somme, n'y a-t-il pas là un continuel apprentissage de la volonté, une admirable leçon de conduite et de défense ?
Il s'était mis à rire.
Vous vous porterez toutes trop bien. Oh, se bien porter, cela va de soi. On doit d'abord se porter le mieux possible pour être bon et heureux. Mais j'entends que celles qui éviteront les cailloux, qui tourneront à propos sur les routes, sauront aussi, dans la vie sociale et sentimentale, franchir les difficultés, prendre le meilleur parti, d'une intelligence ouverte, honnête et solide. Toute l'éducation est là, savoir et vouloir. Alors, l'émancipation de la femme par la bicyclette.
Mon Dieu, pourquoi pas ? Cela semble drôle, et pourtant, voyez quel chemin parcouru déjà. La culotte qui délivre les jambes, les sorties en commun qui mêlent et égalisent les sexes, la femme et les enfants qui suivent le mari partout, les camarades comme nous deux qui peuvent s'en aller à travers champs, à travers bois, sans qu'on s'en étonne. Et là, et surtout l'heureuse conquête, les bains d'air et de clarté qu'on va prendre en pleine nature, ce retour à notre mère commune, la terre, et cette force et cette gaieté neuve qu'on se remet à puiser en elle. Regardez, regardez, n'est-ce pas délicieux cette forêt où nous roulons ensemble? Et quel bon vent cela met dans nos poitrines! Et comme cela vous purifie, vous calme et vous encourage !»